Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Academy. Dans cette émission, nous allons évoquer l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est certes une jeune académie, jeune par rapport à celles qui furent fondées au XVIIe siècle, mais qui vient tout de même de fêter en 2012 ses 90 ans. Pour marquer cet événement, l'Académie vient de publier deux gros volumes intitulés « Présence française au pluriel » Outre-mer, 16e, 21e siècle. Nous allons vous présenter ces ouvrages. Et pour les présenter, nul ne peut mieux le faire que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Pierre Génie, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame, et merci de nous recevoir.
Merci de votre présence à Canal Academy. Nous ne reviendrons pas dans cette émission sur l'histoire de l'Académie parce que elle est traitée dans une autre émission disponible sur Canal Academy, une autre émission avec vous d'ailleurs. Le mot-clé judicieux pour la trouver, c'est « outre-mer », par exemple. Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, les mots « présence française au pluriel » et « outre-mer », faut-il les préciser ? « Présence française au pluriel », ça nous surprend déjà.
Oui, madame. Pourquoi d'abord ce pluriel ? Pourquoi les présences françaises et pourquoi pas la présence française ? Je crois que pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas voulu embrasser tout ce que la France a été outre-mer dans sa présence. Donc c'est déjà quelque chose de limitatif. Et puis dans l'esprit même, c'est une volonté qui n'est pas une volonté d'asséner des vérités premières. Présence française, c'est aléatoire par certains côtés, c'est à la disposition de ceux qui les ont menées, ces présences françaises. On pourrait un peu détailler les raisons. Les présences françaises outre-mer, elles ont été de diverses initiatives, des initiatives privées, des initiatives publiques et parfois une volonté de puissance. Tout s'est représenté ou des volontés d'apostolat pour les missionnaires. Donc il y a des présences multiples. De commerce, bien sûr, également. Donc ça explique qu'il y a une grande diversité, donc il fallait parler des présences au pluriel. Et puis, on ne prétend pas tout recouvrir, donc il faut parler présence au pluriel de façon à ne pas couvrir toute la présence française. Voilà.
Alors, outre-mer, l'outre-mer, c'est ce qui n'est pas dans l'Hexagone ?
L'outre-mer, c'est en principe ce qui exige de prendre quand même plus ou moins un bateau pour y aller. Enfin, c'était ça la vision. Alors, bien sûr, il y a peut-être quelques entorses à ce principe, mais l'ouvrage traite vraiment des continents qui ne sont pas l'Europe, en quelque sorte.
Cet ouvrage, vous en parlez au singulier, mais il est composé de deux tomes, justement. Alors, on va apprendre cette vieille habitude française qui permet de distinguer le fond et la forme et commencer par la forme. Deux tomes, le premier qui est plus historique, qui s'intitule « Période et continents », et le second qui est plus thématique, « Sciences, religion et culture ». Alors, vous dites qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des présences françaises outre-mer, mais enfin, tout de même, ces deux volumes qui représentent à eux deux, grosso modo, 1700 pages, ça fait tout de même important.
Même 1800.
Ou même 1800, allons-y. Eh bien, je pense que vous avez tout de même largement couvert le sujet. Alors, présentez-nous un tout petit peu le premier.
Oui, j'aurais voulu peut-être, si vous en êtes d'accord, dire un peu ce qui nous a déclenché pour nous engager dans une telle publication.
Et il y a combien de temps que vous y pensez ?
Voilà, il y a 6 années, j'essaye de vous rappeler qu'il y a eu un événement qui était un événement politique. Il s'agissait d'une loi qui avait pour but de rasséréner un peu nos compatriotes rapatriés, notamment d'Afrique du Nord. Cette loi de février 2005 a fait échauffer certains esprits parce que il y avait un alinéa qui parlait des aspects positifs de la colonisation française. En 2006, cet alinéa a été supprimé de la loi, mais au niveau de l'Académie, nombreux sont les membres de l'Académie qui avaient travaillé outre-mer et parfois avant les indépendances, mais qui pensaient qu'il fallait clarifier les débats dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous sommes partis sur ce travail. Alors certains étaient d'un côté, en quelque sorte, dans leurs sentiments, et d'autres dans l'autre. La diversité était très importante et on a décidé de créer une commission qui s'est réunie et qui s'est réunie régulièrement depuis cette époque pendant 6 ans avec des participants permanents qui ont recruté les rédacteurs de cet ouvrage. Voilà l'origine. Je crois qu'il fallait la donner.
C'est un travail de longue haleine et un travail très important.
Je peux dire que c'est la première fois que dans notre académie, on avait vraiment un travail suivi avec 50 réunions, enfin des choses très importantes et un suivi très très permanent au travers d'Internet, etc. Enfin, je crois que c'était un travail d'équipe très important.
Est-ce qu'on peut dire que tous les membres de votre académie, d'une manière ou d'une autre, ont participé selon leurs compétences, c'est-à-dire combien de personnes au fond ?
Il y a une 50aine de personnes qui ont été, comment dire,
des
auteurs, des contributeurs pour cet ouvrage. Il y en a une 50aine. Alors, tout le monde n'a pas écrit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette commission a rendu compte 2 fois par an à peu près, en plénière, de l'avancement de ces travaux et qui ont été approuvés par l'ensemble du collège de notre compagnie.
Et vous dites aussi dans votre avertissement, vous dites aussi combien ce travail, ces 2 ouvrages importants, correspondent à la mission profonde de l'Académie.
Tout à fait. Et je crois que ça correspond à la mission qui nous est confiée par le gouvernement, en quelque sorte par l'État, qui était une mission d'ouverture, de connaissance de l'outre-mer, de connaissance de l'outre-mer d'hier et de l'outre-mer d'aujourd'hui, parce que je rappelle que cet ouvrage, il démarre depuis les temps modernes jusqu'à 2011, 2012, comme on voudra, enfin jusqu'à aujourd'hui. Et donc je crois que ça correspond vraiment à notre vocation d'éclairer et toute notre nation sur ses présences de façon très objective. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons choisi de rendre aussi hommage à ceux qui ont été à l'origine, depuis les temps modernes, en quelque sorte, après la découverte de l'Amérique, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et ça correspond aussi à notre désir de rendre hommage à ceux qui ont été les grands anciens de notre académie, même s'ils ne sont pas tous cités. Mais je parlais il y a quelques jours d'un livre qui vient de recevoir le Fémina sur Yersin, par exemple. Yersin, qui a découvert le bacille de la peste, le docteur Yersin, était un membre fondateur de notre académie. Nous raisonnons au niveau de ces grands anciens qui ont fait des présences, qui ont exercé des présences dans les différents domaines de la science et de la technique. Alors, sur le plan historique, nous avons divisé les temps historiques en 3 morceaux. Un premier qui va depuis les temps modernes, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire depuis en gros la découverte de l'Amérique jusqu'à la conquête d'Alger, c'est-à-dire 1830. Donc toute une période qui est une période vraiment historique, qui ne prête pas à contestation sur ce plan-là et qui a laissé une image de la France qui était tout à fait différente jusqu'au siècle des Lumières. Ensuite, nous avons pris une 2e période, d'ailleurs, que j'étais amené à coordonner, et qui était celle qui pouvait donner lieu le plus à controverse. C'est la période 1830, 1950, 60, enfin, jusqu'au moment des indépendances, et tout ce moment qui a été quand même essentiellement la présence française, a été une présence, comme la présence européenne en général, de type colonial, pas exclusivement, mais essentiellement. Et donc là, on s'est aussi assuré de nombreux contributeurs ayant des positions qui étaient, pour certaines, assez conservatrices, d'autres assez progressistes, dans une grande diversité. On est allé chercher les textes, par exemple, de notre confrère Ageron, qui avait beaucoup publié là-dessus et qui est décédé il y a plusieurs années. On a accepté un certain nombre de témoignages qui montraient la continuité dans la pensée de notre maison. La 3e partie était évidemment très ambitieux, c'était de parler de ce qu'est la présence française aujourd'hui, depuis donc les indépendances jusqu'à maintenant. Je crois que on s'en est pas mal sorti aussi, bien que là il y a une diffusion de la présence française. Elle va depuis toujours les problèmes de santé, mais il y a des problèmes de commerce, il y a des problèmes, etc. On ne prétend pas sur et puis les problèmes de relations internationales, les problèmes de la coopération, du développement. On ne prétend pas, dans cette efflorescence, en quelque sorte, avoir tout tracé, mais je crois qu'on a quand même fait une synthèse extrêmement intéressante de ce qu'est la présence française maintenant. Ça, tout ça, c'est le premier volume. Le premier volume, c'est 1200 pages. Alors, si vous en êtes d'accord, je voudrais vous parler de quelques secondes.
Eh bien, j'allais vous le proposer.
Du deuxième volume.
Deuxième ou second? Parce qu'est-ce qu'il y aura un troisième?
Deuxième tome. On s'est aperçu, au cours de nos travaux, qu'on ne pouvait pas prendre en compte les problèmes thématiques développés dans une analyse chronologique. D'où l'idée qui a surgi de compléter avec un ouvrage à caractère thématique qui embrasse les grandes présences françaises au travers des sciences, de la religion ou des cultures. Alors, c'est les trois sous-titres qu'on a donnés à ce deuxième tome. Sciences, bon, on voit très bien ce que ça recouvre. C'est aussi bien les géographes que les géologues, les agronomes que les médecins. Tout cela, il y a énormément de matière. On a eu en particulier un superbe chapitre, à mon avis, sur la médecine, puisqu'on a beaucoup de grands anciens. J'ai évoqué Hyersin, mais on pourrait évoquer Jameau, etc. Enfin, de tous les plus grands noms de la médecine outre-mer. Donc, il y a un très, très bon, un excellent chapitre là-dessus qui montre un peu comment la présence sur le plan sanitaire de la France à l'étranger était extraordinaire. Et puis, la deuxième partie de ce second tome a trait aux religions. Religion, parlant de la présence française, c'est la présence des religions qui ont été diffusées par les Français à l'étranger, outre-mer. Autrement dit, c'est le christianisme dans ses deux formes essentielles dans notre pays qui sont le catholicisme et le protestantisme. Donc ces deux aspects ont été traités très en détail également, avec la participation d'un certain nombre de religieux des différentes confessions, y compris des religieux appartenant à notre compagnie, bien sûr. Ça, c'est la deuxième partie. La présence, on le sait très bien, religieuse dans l'outre-mer est encore française, est encore très importante et a créé entre ces pays de l'outre-mer et nous des relations sur un niveau cultuel, mais aussi culturel, partagé, très important. Alors, la troisième partie du tome 2...
C'est la culture. Et
c'est la culture. C'est la culture dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire aussi bien l'écriture que le spectacle vivant, mais que
l'archéologie,
que les arts plastiques, que
l'anthropologie.
Alors l'archéologie est assez, eh bien, je crois, bien développée. Nous avons quand même pas mal d'archéologues qui ont été dans notre compagnie. On peut citer, par exemple, et on le cite, Monsieur Leclan, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres encore très récemment, avant sa disparition, et qui était un membre fidèle et très important de notre compagnie. Donc, je crois que avec des ancêtres, en quelque sorte, culturels comme ça, on peut avancer. Donc, on a des textes aussi de membres de l'Académie qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine. Donc, je crois que là aussi, on a des forces exceptionnelles. On sait bien ce qu'est toujours... Et d'ailleurs, si on regarde la couverture du deuxième tome, on voit le temple du Bafouon à Angkor, qui a été entièrement reconstruit par le FAO et donc on a tenu à mettre en couverture parce que la restauration d'un temple comme le Bafouon, ça intègre à la fois la science au travers des techniques employées, la religion, puisque dans le temple du Bafouon, je vous signale que on a voulu préserver par exemple la sculpture monumentale de Bouddha qui avait été rajoutée à l'arrière de ce temple, et puis la culture, parce que c'est culturel aussi, il suffit de voir, quand on va encore, on fait un pèlerinage culturel également. Voilà, c'est vraiment symbolique. De même, sur le premier tome, on a représenté un bateau qui est celui des découvertes du 19e siècle. Je pense que c'est bien dans ce cadre-là de l'aventure au-delà des mers que nous nous situons.
Cet ouvrage, donc, et je l'ai peut-être pas assez précisé, comporte un avant-propos de Monsieur Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF, et une préface de Monsieur Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et président de l'Institut français. D'ailleurs, je vais me permettre de lire un tout petit passage de ce qu'écrit Monsieur Darcos, parce qu'il souligne bien le fond et l'esprit dans lequel ces ouvrages ont été rédigés. En montrant la diversité des formes de présence française aujourd'hui, après avoir étudié celles du passé, ce livre est parvenu à parler de l'héritage en évitant à la fois l'acrimonie et la nostalgie. La nostalgie est la solution de facilité, mais elle est inutile, nuisible même, car elle n'aide pas l'action aujourd'hui. Le discours du déclin est tout aussi facile et plus nuisible encore. Car la France du XXIe siècle n'est pas dépourvue d'atouts. Il existe à travers le monde un fort et spécifique désir de France. Évidemment, M. Abdou Diouf, lui, il souligne que couvrir 5 siècles de présence française, c'est tout de même un vaste sujet. Et je pense que l'une des difficultés pour vos rédacteurs a sans doute été l'objectivité. Comment être objectif dans une histoire où les sujets sont encore très sensibles, notamment de la colonisation et décolonisation ?
Oui, la question est tout à fait pertinente, hein, je le reconnais. Et vous vous imaginez bien qu'au sein même de nos réunions de commission, ces discussions ont eu lieu. Que ces affrontements, malgré tout, intellectuels et un peu dogmatiques, ont eu lieu aussi. Je crois qu'ils ont été bien résolus. D'abord parce que on s'est interdit absolument de bloquer complètement l'expression personnelle de tel et tel auteur. Parce que toute expression enrichit quand même l'ensemble. Mais on a su, je crois, en limiter peut-être des aspects qui auraient pu apparaître comme polémiques. Hein, ça, c'est clair. Et la discussion s'est souvent tenue sur... On a relu les articles, on a dit on va revoir avec monsieur, notre confrère, si ça pourrait pas être cadré de façon un peu différente, etc. Et je crois que de cette discussion est sortie justement une objectivité qu'aucun seul n'aurait pu avoir, posséder, transmettre. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, la deuxième période était la plus délicate. Par exemple, le professeur Frémaux a rédigé deux des articles sur l'Algérie, lui-même est né là-bas, mais il l'a fait avec, je crois, la position de l'historien. On peut maintenant, je crois, sans faire de repentance, mais sans faire non plus d'exaltation du colonialisme, on peut en parler de façon, tout au moins dans une académie comme
avec
la nôtre,
recul.
Avec un recul suffisant. Je crois que l'objectivité a quand même été au rendez-vous, mais il est possible qu'un certain nombre de nos lecteurs trouveront que ça va peut-être pas assez loin dans tel ou tel sens, mais ils nous écriront. Voilà.
Justement, puisque vous parlez des lecteurs, ce sera ma dernière question, monsieur Génie. À quel public cet ouvrage peut-il être destiné ? Quels sont les gens qui vont pouvoir s'y plonger ?
Eh bien, c'est pas, à mon avis, un livre qu'on lit d'une traite. C'est un livre de référence, et c'est un livre qu'on peut lire par morceaux. Pour nous, l'objectif, c'est, au sens du 17e, retournons-y, c'est l'honnête homme. C'est-à-dire, ce n'est pas le gradué doctorant de l'université, bien qu'il puisse s'y intéresser, mais c'est la personne qui veut avoir, sur tout ce qui a été la France du grand large, avoir un regard éclairé. Je crois que c'est vraiment ça, notre public. Et puis, je pense que ça devrait être un des livres de base d'un bon nombre de bibliothèques grand public. Car au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est nécessaire. On doit dépasser les affrontements et on doit savoir regarder la grandeur de la France dans le monde. Je crois réellement que la France est, par certains côtés, indispensable au monde, à son équilibre socio-culturel, etc. J'en suis assez persuadé. Il suffit de voir les nombreux étrangers qui passent nous voir pour nous rendre compte et le rayonnement qu'a notre nation pour comprendre que ce rayonnement est dû quand même en grande partie à la présence des Français dans ces différents pays. Et je crois que ça, ce retour en quelque sorte, il est à la gloire quand même de ceux qui ont accepté un beau jour de ne plus voir de leur petit liré fumer la cheminée. Hein. Je crois que ça c'est important. Et puis comme disait Yersin, l'important c'est de bouger.
Alors, ces ouvrages, si vous voulez vous les procurer, Présence française outre-mer, ils sont publiés par l'Académie des sciences d'outre-mer, dont les initiales forment ASSOM. On peut sans doute sur le site internet de l'Académie s'informer plus avant et sans doute les commander. C'est aussi publié par les éditions Cartala, qui sont une maison d'édition spécialisée dans les questions maritimes, je crois, non ?
Dans les questions de l'outre-mer en général.
De l'outre-mer en général,
notamment,
voilà.
Bien sûr, avec une action très forte sur l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Enfin, et puis, c'est un livre, je ne l'ai pas dit, qui a bénéficié pour son édition du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est la tutelle officielle de notre académie, prouvant bien qu'il s'agit d'un travail académique et qui a un label national en quelque sorte, enfin officiel. Hein.
Très bien, donc par l'Académie des sciences d'outre-mer, sous la direction de Pierre Génie, mon invité, Philippe Bonichon et Jean Nemo, Présence française outre-mer, 16e-21e siècle, deux tomes, un historique et un thématique, pour tout de même être mieux informé sur la présence de la France dans le grand large, comme vous l'avez si joliment dit. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, de votre présence et peut-être à d'autres fois pour parler de l'Académie des sciences d'outre-mer.
Merci, madame. Vous voyez qu'on est prêt à toujours bouger sur les thèmes qui nous sont confiés.
Merci infiniment.